Notre invitée ce matin dans le 8-30, Myriam Cadenel, candidate Reconquête sur la seconde circonscription des Alpes de Haute-Provence. Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, avant de vous faire réagir sur l'actualité politique, j'aimerais vous faire réagir sur l'actualité tout court, hein, avec d'abord ce qui vous concerne directement dans votre circonscription, de nouvelles nuits de fermeture annoncées pour les urgences de Manosque, 5 nuits au total, toujours le même constat, qui est un constat local et national, c'est qu'il manque d'urgentistes et l'activité est extrêmement soutenue. Quelles propositions on peut faire face à ce constat, je le disais, qui n'est pas que local, puisque 120 services d'urgence sont fermés aujourd'hui ou en passe de fermer en France?
Malheureusement, ça n'est pas que les urgences chez qui les soignants et les médecins manquent. Ce sont toutes les spécialités. Donc, effectivement, il y a les urgentistes, mais on manque cruellement dans le 04 et dans de nombreuses campagnes, également d'endocrinologues, d'ophtalmos, même de médecins généralistes, de dentistes. Enfin, parlez-en à n'importe quel citoyen qui cherche un médecin ou un dentiste aujourd'hui, vous verrez leur détresse, voire leur colère de ne pas pouvoir en trouver. Je trouve très très inquiétant les fermetures d'urgence pour cause de manque, entre autres, de praticiens. Mais c'est un peu le morceau de l'iceberg qui dépasse de l'eau, et la partie de l'iceberg cachée, c'est qu'il manque de tous les praticiens.
Et qu'est-ce qu'on propose?
Alors, premièrement, la première chose déjà, réintégrer tous les soignants sans tenir compte de cette histoire de vaccination anti-Covid complètement aberrante, qui est de plus en plus discutée à l'international, comme quoi ça n'est pas si efficace que ça, voire pas efficace du tout, et par contre ça empoisonne la vie de tous les citoyens parce que plus personne ne peut se faire soigner. Ça, c'est la première chose, parce que moi je connais personnellement un certain nombre de gens qui sont des professionnels de santé et qui abandonnent leur métier, soit et changent de métier, soit partent à la retraite avec des années d'avance alors qu'ils auraient volontiers continué à soigner leurs patients, tout simplement pour arrêter d'être enquiquiné par cette chose-là, l'obligation vaccinale qui n'est pas un vaccin, qui est quelque chose, qui est un produit qui n'empêche ni la transmission, ni le fait d'être malade. Donc, on se demande bien à quoi il peut bien servir. Et qui empêche même d'être remplacé. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Dans les cabinets, aujourd'hui, si un médecin, un kiné, un dentiste n'a pas cette injection, il, en théorie, il ne peut plus travailler. Mais il n'a pas le droit de se faire remplacer par quelqu'un qui, lui, est à l'injection du vaccin. Allez comprendre pourquoi. Quel est l'intérêt médical de la chose? Quel est l'intérêt des citoyens?
Réintégrer les personnels soignants qui ne sont pas vaccinés, ça c'est absolument une proposition. Et quoi d'autre alors pour les déserts médicaux?
Alors, la deuxième proposition, arrêter d'enquiquiner les gens qui veulent soigner les autres. Ça fait des années, et ces dernières années de pire en pire, qu'on est envahi de problèmes administratifs, de papiers à faire, et tout le temps qu'on passe à faire de l'administratif, on ne passe pas à soigner les gens. Or, quand on a choisi ce genre de c'est une vocation, quoi. Quand on a choisi ce genre de travail, c'est parce qu'on veut soigner les autres, c'est pas parce qu'on veut remplir des papiers. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans le pourcentage de temps qu'on passe, et aux urgences comme dans le reste.
Et vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes chirurgien-dentiste, mais ma question était beaucoup plus, j'allais dire, localisée, sur les déserts médicaux, c'est-à-dire sur le fait que des territoires, et notamment dans les Alpes de Provence, manquent d'attractivité, que des praticiens ne veulent pas s'installer, qu'ils soient spécialistes ou généralistes.
Le problème, c'est que plus le problème devient aigu, c'est un cercle vicieux. Plus le problème devient aigu et moins les gens veulent venir s'installer. Pourquoi? Parce que on vous fait croire, les gens qui sont à Paris et qui décident de votre vie sans venir voir ce qui s'y passe, vous font croire que, par exemple, les gens ici ne peuvent pas se soigner parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs soins. C'est absolument pas ça. On ne trouve pas les soignants, on ne trouve pas les médecins et les dentistes. Donc, pour permettre aux médecins, aux dentistes, aux urgentistes, aux spécialistes de venir s'installer, il faut d'une part les inciter de façon pérenne, c'est-à-dire sur une période longue et efficace, au niveau par exemple fiscal, et pas leur donner une petite prime ponctuelle, mais leur dire, bah, écoutez, vous venez dans un désert médical, pendant, je sais pas, les 10 ans qui viennent, vous n'allez pas payer d'impôts. Voilà. Là, vous allez avoir du monde. Là, vous allez avoir du monde. Ensuite, il faut arrêter de les enquiquiner sans arrêt avec des parties administratives.
Myriam Cannel, un autre titre, pardon, et on avance un petit peu, hein, mais un autre titre dans l'actualité, c'est la transition écologique. Ça fait partie de la préoccupation des Français. On en a parlé ce matin dans l'actualité des Alpes du Sud. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce classement parlementaire qui a été établi par l'association Agir pour l'environnement. Bilan, les députés La République En Marche ne sont pas très verts, et en tout cas, Christophe Castaner est à la 564e place, quand Delphine Bagary, elle, est 10e. Qu'est-ce que le mouvement Reconquête propose pour la transition écologique, pour une France plus verte ?
Mais je ne pense pas qu'on ait besoin d'exclusivement une transition écologique. L'écologie, le fait de respecter la nature et de fonctionner en accord avec notre environnement, de façon pérenne, ça doit être un état d'esprit permanent. On n'a pas besoin d'avoir une étiquette verte ou pas verte. Tous les partis devraient suivre ce genre de choses. Ça tient du bon sens, ça tient du simple bon sens. Donc, il n'y a pas de décision particulière à prendre. Il faut, lors de chaque décision et de chaque loi, envisager quel est l'impact sur l'environnement, de façon logique et avec bon sens, et faire le choix en fonction des conséquences que ça risque d'avoir.
Est-ce que vous auriez voté par exemple l'interdiction du glyphosate ?
Je pense qu'il faut voter l'interdiction du glyphosate, tout en allant vers les gens qui jusque-là l'emploient, pour voir comment on peut le remplacer. Bien sûr, personnellement, ça n'est pas mon domaine particulier, donc je n'ai pas les solutions à la minute, mais c'est quelque chose qui peut se travailler. Je pense que ça a été, comme de nombreuses choses, fait à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé voir quelles étaient les causes et les conséquences, et on a de nouveau écouté le cœur au lieu d'écouter la raison. Les deux sont importants, mais quand la raison ne parle plus du tout, c'est une catastrophe. Et c'est ce qui se passe dans un certain nombre de cas. Quant au nombre de votes de M. Castaner, j'avoue que je suis un petit peu allé voir sur son site au niveau de l'activité d'élu en tant que député. Je conseille à tout le monde d'aller voir. Je pense qu'il y a assez peu de présence et que beaucoup de votes se font à travers quelqu'un d'autre parce qu'il n'était pas libre. Donc, je veux dire, on ne peut pas tout faire, hein. Il n'y a que 24 heures par jour. S'il décide d'être député, il faut être sur le terrain, près des gens et aller voter à l'Assemblée. Je n'ai pas l'impression que ce soit fait. Quant à Mme Bagary, c'est très très bien qu'elle ait des votes là-dessus. J'aimerais connaître et faire connaître plus en détail les votes qui ont eu lieu pour le pass sanitaire et l'obligation des vaccins, etc. Je ne suis pas certaine que je serais totalement d'accord avec elle, hein, très très loin du cas.
L'une des propositions de Reconquête pour la ruralité, c'est 10 000 euros pour chaque nouvelle naissance dans une famille de la France rurale qui est installée dans une ruralité, dans une commune rurale depuis 2 ans. Une mesure qui a été jugée, je cite, « indécente » par l'ancien ministre de la Ruralité, Joël Giraud, ce qu'il a dit sur Alpe 1. Les ruraux ne sont pas des lapins prêts à procréer dès qu'ils voient une carotte.
Mais pas du tout. Mais la preuve, c'est qu'ils n'ont pas de carotte et ils procréent quand même aujourd'hui. Moi, je vais vous donner un exemple très très simple. Pour l'instant, ce genre de mesure, c'est simplement un rééquilibrage. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui, l'exemple simple, je vais vous prendre la taxe sur les carburants. C'est très simple à comprendre. Quand vous habitez à Barcelonnette, quand vous habitez à Sisteron ou dans n'importe quel coin un peu reculé du 04, vous avez besoin de votre voiture. Vous êtes obligé de l'utiliser pour travailler, pour aller vous faire soigner, pour vous occuper de vos enfants. Vous êtes obligé. Il n'y a pas le choix. Vous n'avez pas des transports en commun pour un remplacement de votre véhicule. Donc, vous achetez de l'essence ou du carburant d'une façon ou d'une autre. Les carburants sont taxés environ à 2/3. C'est-à-dire que quand vous rentrez 1 litre de carburant dans votre voiture, vous payez 2/3 de taxes,
Désolée, on doit accélérer, Myriam Canel, je ne vois pas du tout le rapport entre les naissances et le carburant.
Vu le nombre de kilomètres que vous êtes obligé de faire pour simplement faire vivre votre famille, vous payez beaucoup plus de taxes que quelqu'un qui habite à Marseille ou quelqu'un qui habite à Paris.
Mais donc, on ne parle pas d'allocation familiale, là on parle de natalité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait naître un enfant, c'est 10 000 euros, c'est une prime à la natalité.
C'est-à-dire que vos enfants, comme toute la vie de tous les jours, vous coûtent beaucoup plus cher dans la campagne de ce fait-là, et vous êtes beaucoup plus taxés malgré tout. Donc, les gens qui ont proposé cette mesure essayent de contrebalancer les surcoûts d'être loin des métropoles. Moi, j'ai d'autres propositions à faire qui paraîtront très certainement vendredi, je pense. Vous verrez dans la presse.
Comme par exemple pour la ruralité.
Pardon ?
Par exemple, quelle mesure pour la ruralité ?
Eh ben, par exemple, justement, sur la taxe sur les carburants, de différencier les taxes sur les carburants entre les gens qui habitent dans les métropoles et les gens qui habitent dans la ruralité, parce que ils n'ont pas la même, je veux dire, si vous êtes obligé d'acheter beaucoup plus de carburant, de fait, vous payez beaucoup plus d'impôts indirects.
Justement, je parlais des allocations familiales il y a très peu de temps. Éric Zemmour proposait de revenir à l'universalité des allocations familiales. En quoi la mesure est juste ? Parce que les allocations aujourd'hui sont versées en fonction des ressources. Plus on gagne, moins on touche. Finalement, si on est un patron du CAC 40, on touchera moins qu'un bénéficiaire, par exemple, du RSA. Et là, finalement, on déciderait que ce serait la même pour tout le monde.
Mais ça n'est pas la même origine et ça n'est pas le même but. C'est-à-dire que c'est un impôt qui est proportionné à vos revenus. C'est une chose. Mais ça n'est pas un impôt. C'est une déclaration.
Les allocations sont versées en fonction des ressources.
Les allocations familiales aujourd'hui.
Oui.
Ça, c'est relativement récent, ça n'avait jamais été le cas.
Et donc, il faudrait que ça soit rendu universel ?
Mais moi, je pense qu'il faudrait que ce soit rendu universel et dès le premier enfant, oui.
Donc, que l'on soit riche ou pauvre ?
Parce que ceux qui ont le plus de difficultés jeunes, on a tous fait l'expérience, ben c'est quand on a le premier enfant.
Après, mais on n'a pas tous les mêmes ressources.
Ça n'est pas. Enfin, il y a l'histoire aussi d'équité, hein, de justice. À force de pénaliser les gens qui travaillent et qui ont plus de revenus que les autres, et qui sont souvent pas grand-chose de plus. Hein, c'est quand vous parlez du patron du CAC 40, c'est quand même.
Ben justement, la mesure là n'est pas équitable. Elle est égale, c'est une mesure qui est égale puisque tout le monde l'a. Oui. Est-ce que ça vous dérange d'être candidate aux côtés, par exemple, de Jérémy Piano, ancien cadre du groupe d'extrême droite Génération Identitaire, qui est candidat dans les Bouches-du-Rhône, donc en région PACA, et qui a été condamné hier en appel pour provocation à la haine en 2020. Lors des municipales, il avait affiché le slogan « Immigration, racaille, islamisation ». Est-ce que ça vous dérange d'être candidate Reconquête au même titre que Jérémy Piano ?
Personnellement, je ne le connais pas. Je ne suis pas une professionnelle de la politique, donc je ne connais pas tout et tous les gens. Je pense qu'il est, il est responsable de ses actes et moi des miens. Donc voilà. Les législatives, vous élisez une personne, pas un parti entier. Donc bon, après c'est comme dans tous les partis, il y a des gens
recommandables.
Avec moins de casseroles, on va dire. Mais quand on parle de casseroles, on pourrait aller regarder vers La République en marche, parce qu'aujourd'hui, il y a tous les jours une nouvelle plainte ou une nouvelle condamnation. Très franchement, c'est une catastrophe.
Mais est-ce que vous pourriez dire aussi, comme Jérémy Piano, en parlant de l'invasion migratoire, qu'il s'agit de milliers de clandestins déjà en France, dont probablement des voleurs, des violeurs, des terroristes en puissance ?
Écoutez, moi je ne généralise pas. Je constate et je ne juge pas les gens sur une étiquette, mais sur un comportement et sur leurs actes. Donc, quand je constate que, ma foi, quelqu'un qui vole, frappe et se fait attraper et qu'on constate que c'est un migrant ou quelque chose comme ça, ou un migrant légal ou illégal, je veux dire, je le constate. Je ne le cache pas comme un certain nombre de médias le font. Par contre, ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil. Il y en a qui sont tout à fait bien, qui sont venus légalement, qui s'intègrent et qui vont payer leurs taxes et leurs impôts et avec qui je vais travailler sans aucun problème. Ça n'est pas un a priori. Je juge des actes.
Merci beaucoup Myriam Cannel d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1. Je rappelle que vous êtes candidate de Reconquête sur la deuxième circonscription des Alpes d'Haute-Provence. Merci.